Bonjour Gaëlle Mac.
Bonjour.
Bienvenue, directrice déléguée de la rédaction de Challenge. La une de Challenge, c'est bien, je n'ai même pas vérifié avant, c'est bien celle-là.
Hein. C'est bien celle-là.
Voilà, l'IA, les formations pour accélérer sa carrière. Hier, on faisait une spéciale tech. IA, les formations, ça veut dire que vous faites un dossier pratique.
C'est un dossier pratique et un dossier plutôt enseignement supérieur et formation qu'un dossier IA. Enfin,
ouais,
voilà, c'est formation sur l'IA.
Formation sur l'IA. Bonjour Gilles Raveau.
Bonjour Monsieur Dose.
Maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis. Et on vous retrouve toutes les semaines dans le quart d'heure écho sur YouTube.
C'est vrai, tout à fait.
Voilà, et vous allez enregistrer le prochain quart d'heure dans un quart d'heure.
Mais après. Essayez d'enchaîner, ça va être dur.
C'est quoi le sujet?
Fast fashion.
La fast fashion.
Et l'ultra fast fashion.
D'accord. Et là, vous avez un point de vue très arrêté.
Ben regarde.
Exactement, en tant que spécialiste de la question vestimentaire.
Ben voilà.
Le polo est à la mode.
Ben, le polo est à la mode, oui. On voit que le polo, il coûte moins de 150 euros. Il est arrivé non taxé.
C'est un polo Oxbow, sans faire de publicité.
Ludovic Subran, bonjour.
Bonjour.
Ça fait beaucoup trop longtemps que vous n'êtes pas... Je dis ça à chaque fois en plus. Hein.
Ouais.
Beaucoup trop longtemps que vous n'êtes pas venu. Directeur des investissements d'Allianz et chef économiste d'Allianz. Et vous avez publié « L'export fait vivre ces entreprises françaises championnes du monde ». Édition Le Cherche Midi. Bon, 8e baisse de taux, Ludovic, c'est une bonne nouvelle.
C'est une très bonne nouvelle.
C'est une très bonne nouvelle. Dieu sait si des voix se sont à de nombreuses reprises élevées pour demander des baisses de taux d'intérêt à la Banque Centrale.
Oui, c'est une très bonne nouvelle pour au moins deux raisons. La première, c'est que quand on voit ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, c'est pas mal d'avoir une Banque Centrale qui n'est pas chahutée dans la conduite de sa politique monétaire et qui a pu faire un atterrissage très en douceur, sans récession, après le pic d'inflation qu'on a connu suite à l'invasion de la Russie en Ukraine. La deuxième bonne raison, c'est que je trouve que aujourd'hui la teneur des échanges hein, au sein du Conseil monétaire est plutôt excellente, puisque on voit qu'ils sont toujours conduits par la donnée. Là, elle a plus ou moins...
L'important, c'est que vous dites, conduite par la donnée, c'est aujourd'hui une forme de doctrine de fonctionnement.
Oui,
à l'époque, il y avait la forward guidance qui
Exactement.
Donnait la direction future. Et là, on attend presque a posteriori des données pour pouvoir prendre une décision.
Moi, je ne suis pas un fan de ça. J'en ai parlé à nombreuses reprises parce que je trouve que le tâtonnement monétaire, ça a tendance à accélérer ou à amplifier la volatilité sur les marchés. Mais dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, je trouve que c'est pas mal. Et surtout, ça, pour le coup, pour la BCE, ça marche assez bien parce que là, ils sont en effet à 2% de taux directeur. Nous, on s'attend à ce qu'ils baissent encore deux fois d'ici la fin de l'année, mais peut-être avec des pauses entre ces baisses de taux. Principalement, pourquoi? Parce que ça va dépendre de ce qui se passe aux États-Unis et ça va dépendre aussi de ce qui va se passer sur le côté budgétaire. Parce que vous parliez de la peur de la déflation. Moi, je n'y crois pas du tout. L'inflation servicielle en zone euro est toujours assez forte. Et puis, il y a quand même ce gros sujet sur le policy mix. Donc, les Allemands qui vont dépenser presque 10 points de PIB sur les prochains 10 ans à relancer leur économie via la défense des infrastructures. Nous qui n'arrivons pas vraiment à baisser la voilure sur la dépense publique, les Italiens, les Espagnols qui veulent aussi dépenser. Donc, je trouve que la BCE incarne aujourd'hui énormément de stabilité. C'est une encre et ça se voit. Je trouve que les investisseurs regardent vraiment l'Europe différemment. Alors, ce n'est pas le grand retour du capital vers l'Europe, mais moi, tous les jours, je vois des investisseurs américains qui me disent « Explique-moi de nouveau, qu'est-ce qui fait que l'Europe est attractive aujourd'hui ? Est-ce que cette Europe de la défense, ça pourrait accélérer des investissements dans la technologie et des secteurs productifs ?» J'avais pas eu cette discussion depuis un moment. Et je rappelle à tout le monde les discussions qu'on avait en novembre, où c'était The Economist qui titrait « L'Europe est derrière, à la traîne, l'exceptionnalisme américain ». Le monde a bien changé. Cette Europe qui était vieille, woke, bureaucrate, personne n'en voulait, maintenant elle paraît super cool par rapport à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique avec Trump et ses copains.
C'était Agnès Benassi-Kiré qui était au printemps du FMI et de la Banque mondiale et qui était rentrée. Parmi les trois conclusions qu'elle avait tirées, c'est que d'abord, il y avait une stabilité quand même préservée du système financier et qu'il y avait un retour de l'envie d'Europe.
Ouais, il y a
parce qu'on
croit au libre-échange, parce qu'on croit à l'indépendance de la Banque centrale j'avoue quand vous êtes investisseur, c'est plutôt assez alors c'est pas parfait l'environnement de réglementaire ou fiscal etc. est pas génial, on est très fragmenté, il y a tout le rapport Draghi à mettre en œuvre sur l'approfondissement du marché unique, mais j'avoue que le faire valoir américain nous donne un petit peu de vent dans les voiles, quoi.
Et j'avais rarement entendu sur ce plateau quelqu'un être aussi dans le satisfecit de la politique menée par la Banque Centrale Européenne, sans forcément rendre tous les lauriers à Madame Lagarde, mais Dieu sait si on a entendu des critiques lourdes sur Christine Lagarde et vous avez un discours qui est beaucoup plus mesuré. Gaëlle, oui, et puis oui, Gilles, pour poursuivre.
Mais en fait, moi j'ai toujours, j'ai jamais été une très grande critique de Christine Lagarde, j'avoue. Je trouve que simplement c'est lisible, en fait, c'est juste logique, en fait. Et ça devient maintenant exceptionnel, la lisibilité. C'est juste ça. En fait, l'Europe, elle n'est pas meilleure qu'avant, elle est juste stable. Et en fait, ce dont ont besoin les investisseurs et les entrepreneurs, c'est la stabilité, c'est vraiment la vertu cardinale, c'est le besoin premier pour faire des affaires, c'est d'avoir un environnement que l'on comprend. Je veux dire, et ce que fait la BCE, ce que fait la Commission européenne plus globalement, voilà, je veux dire, tout simplement, c'est un environnement économique qui, il y a 2 ans, bah, je veux dire, toutes les zones, enfin, les grandes zones pouvaient se prévaloir d'avoir ce type d'environnement. Aujourd'hui, ça devient presque rare parce que dans un contexte de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, dans un contexte complètement incertain qui met juste l'économie à l'arrêt, juste les investisseurs et les entrepreneurs aux abois en se demandant du jour au lendemain qu'est-ce qui va se passer. Bon, voilà. Donc, finalement, c'était quand même, sur le fond, c'était pas du tout étonnant. La croissance baisse quand même. Je veux dire, la croissance s'affaiblit en Europe.
Mais l'OCDE nous l'a confirmé.
Voilà, et l'inflation n'est plus un sujet. Je veux dire, l'agenda premier de la BCE, c'est quand même la maîtrise de l'inflation. L'inflation aujourd'hui est clairement bien moins un sujet que la croissance. Et cette baisse de la croissance fait aussi baisser le coût du pétrole, le prix du pétrole. Donc, de toute manière, l'inflation va rester...
C'est peut-être d'ailleurs l'énergie qui est la principale responsable du recul de l'inflation, plus que les effets de politique monétaire.
Bien sûr. Et en plus, cette question des droits de douane ne nous touche... L'inflation ne va pas être forte en Europe à cause des droits de douane. On n'importe pas autant de marchandises des États-Unis que eux. Voilà. Donc, ça ne va pas énormément gonfler l'inflation en Europe, quel que soit ce qui se passe sur les droits de douane.
Non, mais surtout que ça dépendra de la réponse définitive des Européens, parce que si on décide de ne pas mettre vraiment de rétorsion commerciale sur les produits américains, on n'apportera pas
J'espère
de l'inflation.
J'espère qu'on va en mettre un peu quand même.
Un peu sans doute.
Sinon, on va avoir
mais
l'air de plouc.
Mais je vous rappelle qu'on a un euro qui a beaucoup... Enfin, le dollar a beaucoup baissé face à l'euro, ce qui atténue considérablement pour le pouvoir d'achat des Européens, les effets droits de douane.
Et là, ça a l'air d'avancer un peu, les négociations. Là. Il se passe quelque chose. Un petit frémissement.
Il se passe quelque chose. Mais on n'est pas à l'abri d'un Trump qui nous dit qu'il va monter à 75%.
Hein. Jamais à l'abri de rien.
Par rapport à ce qu'on a dit, Gilles, depuis ce début de tour de table, sur déflation non a priori, c'est pas le risque, mais la bataille contre l'inflation est potentiellement tenue. Et effectivement, c'est très Warren Buffett, je n'investis que dans ce que je comprends. Et il faut bien reconnaître, Gaëlle Jeannemec, qu'on comprend à peu près l'Europe beaucoup plus qu'on ne peut prévoir ce qui pourrait se passer aux États-Unis. Qu'est-ce que vous voulez me ajouter à cette photographie?
Oh là là que oui.
Bon.
Parce que je suis en train de terminer un livre sur ce que j'appelle la très grande inflation.
La très grande inflation.
De fin 2021-2023. Et je suis retombé sur ce grand moment d'histoire des idées contemporaines. C'est Christine Lagarde qui auditionnait au Parlement européen et qui reconnaît que l'inflation a été tirée par les profits. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle dit « Oui, évidemment, je vois bien que les taux de marge ont augmenté dans certains secteurs. » Et quand elle est questionnée, ce petit moment exceptionnel où l'Union européenne est un tout petit peu démocratique, quand elle est questionnée au Parlement, elle dit oui, alors effectivement, nos services, nous, on ne connaît pas trop bien les profits, vous savez, parce que nous, depuis les années 70, ce qu'on regarde, les banques centrales, c'est les salaires, puis comme le monde sait, c'est la CGT qui gouverne l'économie européenne, comme chacun sait. Et donc, on est bien obsédé sur les salaires, et on regarde au troisième chiffre après la virgule, mais les profits, on ne regarde pas trop, parce que, hypothèse de concurrence pourrait être parfaite, à l'équilibre, les profits sont nuls, merci, bonsoir. Et donc, ça, c'est quand même très intéressant, c'est que alors qu'elle sait ça, elle fait exploser, il suffit, les gens peuvent regarder les courbes, le taux d'intérêt qui est à 2% en mi-2022, il est porté jusqu'à 4,5% en 2023, dans le but, que j'adore, de créer du chômage, de la pauvreté, de la récession et d'alimenter l'extrême droite.
C'est ce
que dit dans son discours de juin 2023 à Sintra au Portugal, Christine Lagarde nous dit « Nous allons mettre les taux d'intérêt à des niveaux restrictifs ». ça veut dire ce que ça veut dire, et nous les maintiendrons à ce niveau-là aussi longtemps que nécessaire.
Vous me dites que Mme Lagarde va mener une politique restrictive monétaire pour créer du chômage,
oui, de la pauvreté et l'extrême droite.
Et oui, faire monter l'extrême droite.
C'est la base de la politique monétaire, c'est ce que le défunt Jean-Paul Fitoussi expliquait très bien le débat interne. Non, mais c'est la base, c'est la réalité des choses.
C'est la réalité des
choses.
C'est
pas parce qu'elle n'est pas dite et enseignée.
Normalement, vous utilisez l'arme de la politique monétaire comme eau chaude ou eau froide en fonction des réalités économiques. Pas dans des buts de perversion et de destruction.
Lisez le discours de Saint-Pas, Monsieur Dose. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a... Non, mais pourquoi j'en parle? Parce que j'ai une passion pour le taux d'intérêt, parce que c'est la variable qui affecte le plus la vie des gens. C'est ça qui est assez extraordinaire.
C'est le prix de l'argent.
Non, c'est le prix de l'argent.
L'inflation.
Et donc, qu'est-ce qui se passe en 2023-2024? On a un effondrement du marché immobilier dont on a beaucoup parlé ici dans l'émission qui nous suit, qui est directement la conséquence de cette très forte hausse des taux d'intérêt.
Sur le marché immobilier, la première conséquence immédiate et directe pour les gens des mouvements de taux, ça va être l'IMO.
Et on a, à l'époque, des milliers de témoignages dans la presse de familles, je peux plus acheter, tous mes projets s'effondrent, etc. Vous pouvez le contester, ce sont des faits qui sont largement établis. Et qu'est-ce que nous a dit Christine Lagarde hier? Eh oui, elle nous a dit, au niveau actuel, donc, ça monte et ça redescend, vraiment c'est parfaitement symétrique, c'est monté très très haut et très très fort, ça a été très fortement critiqué par beaucoup d'économistes à l'époque.
Oui, bien sûr.
Presse capitaliste, les échos s'alarmaient des très fortes hausses de la BCE de l'époque. Je peux vous envoyer tous les articles, mais vous les connaissez comme moi. Et qu'est-ce qu'a dit Christine Lagarde hier? Elle dit, au niveau où nous revenons, ça n'a plus, elle l'a dit, vous pouvez regarder son communiqué hier, de la BCE, ça n'a plus d'effet négatif sur l'activité. Donc c'est bien qu'avant, ça avait un effet négatif, et c'était bien le but. Et donc,
remontez les taux,
c'est pour ralentir l'inflation.
Non, mais c'est une vue très dogmatique. On confond corrélation, causalité. Moi, après,
c'est politique. Ludovic.
Non, mais je sais pas quoi dire. C'est pas les taux d'intérêt qui causent la pauvreté, le chômage ou le mal-être ou le Front National. C'est l'inflation. On le sait depuis maintenant, malheureusement.
Mais je suis très sérieux.
Mais même
quand vous augmentez les taux d'intérêt, il s'agit d'augmenter le coût du crédit, de baisser la consommation, de baisser l'investissement.
Soit bulleuse.
Vous savez que vous allez créer du chômage.
Non, mais c'est pas le but du chômage.
Je le dis de façon rigolote. Oui.
Mais pourquoi on va créer du chômage?
Pour diminuer la pression salariale et diminuer la demande. Mais bien sûr que oui.
Parce que vous diminuez l'activité.
Le chômage, c'est la réalité des choses.
Il est évident que si on monte les taux pour freiner une surchauffe, même s'il y a débat pour savoir si l'inflation était vraiment d'origine monétaire et que l'arme des taux était la bonne pour freiner ce mouvement sur les prix, qui n'a jamais été d'ailleurs un mouvement de hausse généralisée des prix avec effet de second tour. Mais automatiquement, si on freine, Gilles, on a forcément des conséquences. Quand on fait des prêts garantis par l'État qu'il faut les rembourser, alors vous allez me dire qu'on a fait des PGE pour être sûr qu'il y ait des faillites 3 ans plus tard.
Non, on a fait de... Non, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est vous qui inventez un truc qui n'existe pas.
Mais j'invente un truc qui n'existe pas,
Mais enfin...
Mais vous êtes deux à inventer des trucs qui n'existent pas.
Faisons
une coalition déraisonnable, Luc.
Vous
n'êtes pas du tout raisonnable, je suis totalement raisonnable. Non, non, mais attendez, tout ce que j'explique là est parfaitement expliqué dans tous les travaux universitaires que je connais par cœur des années 70, de la théorie monétaire.
Même Isabella Weber, qui est la personne qui sait un petit peu des choses sur cette inflation, la greedflation, même elle n'irait pas, Gilles, je suis désolé, jusqu'à la causalité que tu as présentée avec c'est le taux d'intérêt qui est le.
Je pense qu'elle est absolument
établie. C'est un peu l'extérieur de ça. C'est la première à avoir, sur cette vague-ci d'inflation, parlé de greedflation, donc l'inflation des profits. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour revenir à ce que tu disais, on mélange plein de choses. En 2020, pour sauver l'économie de récession, faillite, chômage, on met tellement d'argent dans le système que forcément, on crée un peu d'inflation en fin de sortie de... On a en fait arrêté l'économie que pendant 3-4 mois. On ne savait pas ce qu'on faisait. Donc en fait, on a fait beaucoup trop. Et se rajoute à ça une crise d'énergie jamais vue depuis les années 70 sur le choc russe. Et donc du coup, tu as deux chocs, un d'offre et un de demande. Le choc d'offre est beaucoup plus important que celui de demande. Parce qu'on a fait tous les PGE, etc. C'est vrai que ce sont les entreprises qui étaient cartélisées dans certains secteurs, le shipping, etc., l'agroalimentaire aux États-Unis, etc., qui en ont profité pour se gaver sur les hausses de prix. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Je pense que l'inflation des profits,
ça a été le truc le plus dégueulasse, on va le dire comme ça, des dernières 5 années sur la vie des gens. En revanche, je suis d'accord avec toi sur le fait que monter les taux, c'est pas la seule politique monétaire. En revanche, je pense pas que l'intention de la montée des taux soit de créer chômage, mal-être
avec préméditation.
Parce que c'est un peu. En revanche, est-ce qu'on a abandonné une autre façon de faire de la politique monétaire, peut-être plus complète que cette obsession de la cible d'inflation, ça je suis d'accord avec toi. Mmh. Et donc c'est vrai que quand tu donnes à n'importe qui n'importe quel problème et tu leur donnes un outil, bah, l'outil est surutilisé, ça je suis d'accord. Après, moi je trouve que de ce côté-ci de l'Atlantique, on n'a pas eu de discours justement alarmiste sur le chômage. Mmh. Moi je me rappelle Larry Summers depuis les Bahamas, ça c'est un vrai truc, hein, qui explique que la seule façon de faire baisser l'inflation aux États-Unis, c'est d'avoir 10% de chômage.
Exactement.
Et là, le cynisme.
Larry Summers, si voilà. Ancien président de l'université d'Harvard.
Voilà, et ce que je dis là, ancien secrétaire d'État au Trésor, etc. Donc là, de notre côté à nous, je pense que, si tu veux, tu parlais de l'immobilier, je pense que pendant des années, les taux bas ont gonflé la bulle immobilière et qu'en termes distributifs, enfin redistributifs, je trouve que, alors, il y a des gens en effet qui n'ont plus pu avoir accès au crédit, mais je pense qu'aussi d'avoir fait baisser les prix de l'immobilier, ça a fait baisser une partie des inégalités qui s'étaient
accrues. Voilà, les taux bas, c'était aussi un gros facteur d'inégalité.
Je comprends ton point. C'est vrai que notre articulation politique budgétaire, politique monétaire est pourrie. Après, sur l'intention ou sur la causalité, j'ai du mal.
Non, mais moi, je ne vais pas m'excuser de savoir ce que je sais.
En 1900,
on s'excuse pas en débat.
On a le droit d'avoir un positionnement et de l'argumenter.
On s'excuse pas en débat.
J'ai lu livre de Jean-Paul Fitoussi, Le débat interdit, 1995, je l'ai lu. Quel est le sous-titre ? Monnaie, Europe, pauvreté. Voilà. Et qu'est-ce qu'il explique ? C'est que quand on fait très fortement augmenter les taux d'intérêt au début des années 90 en France pour faire l'euro, qu'on crée la récession de 1993, que le taux d'endettement de la France prend 20 points, passe de 40% à 60% du PIB entre 92 et 99 pour faire l'euro, on crée nécessairement de la pauvreté. Ce livre a été écrit il y a 30 ans. Je ne vais pas m'excuser de savoir ce que je sais.
Je suis d'accord, mais aujourd'hui, le taux de pauvreté en France est quand même un des plus bas au monde. Hein.
Livre...
Ce n'est pas la question. C'est simplement, quand on augmente les taux d'intérêt très fortement comme on le fait, on doit savoir qu'on aggrave la pauvreté et que dans le contexte politique de l'Europe aujourd'hui,
je pense que c'est
une décision très grave.
Dans le livre de Jean-Paul, qui était mon directeur de master de recherche à Sciences Po, paix à son âme, ce qu'il dit, c'est pas exactement ça, je suis désolé. Ce qu'il dit, c'est que ce sont les efforts de convergence via la dévaluation compétitive des salaires qui crée la pauvreté. Donc c'est pas, je comprends ton bouc émissaire qui est le taux d'intérêt. Ce qu'on a mal fait, et on l'a vu en Italie, en Grèce, notamment lors de la gestion de la crise grecque et de la crise italienne de 2012-2014, mais on l'a vu en effet dans les années 90 lors du moment de grande convergence, c'est que pour arriver à avoir cette stabilité des prix, on a été rogné sur les salaires et sur notre capacité, d'ailleurs notre productivité chute à ce moment-là en France, ça personne ne le dit. Et donc je pense que
exactement.
Il faut pas confondre.
C'est le début de la désindustrialisation.
Exactement. Et donc, je pense qu'il faut pas confondre cet outil qui est triste, hein, parce qu'il est un peu unique, et donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont rajouté l'assouplissement quantitatif. C'est pour ça qu'ils rajoutent les outils macroprudentiels et cette idée de la monnaie unique qu'on a construit sans avoir de budget unique. Parce qu'en fait, derrière le point de contrôle, c'était aussi ça. C'était de dire, il fallait dès le début en Europe faire une union monétaire complète. Et donc avec un budget, ce qui est aussi le sujet aujourd'hui, c'est-à-dire que sur les efforts de la dépense, tu peux pas avoir aujourd'hui.
On a un outil monétaire, mais pas d'outil budgétaire commun.
Et donc ça nous fout à l'amende, parce que tu peux pas avoir de correspondance entre ce qu'on essaie de faire quand tu essaies de calmer la surchauffe et mettre par exemple les amortisseurs sociaux en place. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
on s'est privé d'un outil. On a un seul outil qui est monétaire et on s'est privé du deuxième outil.
On va marquer une pause. Je veux bien qu'on continue à s'interroger.
Mais c'est hyper important.
Non, mais c'est hyper important.
C'est doctrinal.
Revenons dans les années 80. Avec Jean-Paul Fitoussi.
Mais ça me semble assez cohérent que si on freine l'activité, les effets de frein ont des effets négatifs.
Bien sûr,
les effets de bord sur l'emploi, comme pour la mondialisation et tout ça, ont été complètement mis à l'amende.
On marque une pause. On va revenir en France avec l'ambiance budgétaire, on va dire. On essaiera de dire un mot de l'Europe de la défense. Ludovic Subran est à lire dans Les Échos. Aujourd'hui, il nous fait l'Europe de la défense en 5 actes. Alors, comme je n'ai pas lu le papier, mais que j'ai l'auteur, je me suis dit que c'était voilà.
Magnifique.
Allez, à tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.